Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Les nouveaux chemins cherchent quotidiennement à dire la vérité par le corps, en compagnie de Mathilde Wagman, Géraldine Mosna-Savoie, Denis Ramon, Antoine Ravon et Marianne Chassor, à la réalisation théâtrale cette semaine Olivier Guérin, à la lecture sur scène Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son corporel Philippe Palares. À 10h47, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous parlera d'écriture comme toute cette semaine avec aujourd'hui le dernier livre de Jean-Pierre Clairaut, Essai sur les fictions, paru aux éditions Hermann.
La philosophie était donc une discipline ouverte, mais c'était une discipline qui avait ses méthodes propres, ses formes de raisonnement, ses déductions bien particulières. Il me semble que maintenant, la philosophie est en train de disparaître.
Dernier temps aujourd'hui de notre semaine foucauldienne, après la philosophie par l'usage et les utilisateurs lundi, la pensée du genre mardi et le néolibéralisme hier mercredi, c'est aujourd'hui la philosophe Arianna Sforzini qui prépare une thèse de doctorat sur le rôle du théâtre dans l'œuvre de Michel Foucault, qui vient s'interroger sur la place du corps et la dimension de la scène dans la pensée de Foucault, et si ce que l'on nomme vérité n'était pas toujours une mise en scène. Départager le réel et l'illusion, départager la vérité et le mensonge, c'est bien la fonction de la philosophie. Mais ce que je voudrais faire, c'est d'essayer d'écrire la manière dont les hommes d'Occident ont vu les choses sans jamais poser la question de savoir si c'était vrai ou pas. Essayer de décrire la manière dont ils ont monté eux-mêmes, par le jeu de leur regard, le spectacle du monde. Ce qui m'intéresse, c'est la constitution de la scène et du théâtre. C'est le théâtre de la vérité que je voudrais décrire.
Te souviens-tu de m'avoir confié un petit enfant ? Pour que je l'élève comme s'il était le mien.
Et comment que dis-tu là ? Pourquoi me poses-tu cette question ?
Eh bien, mon cher, le voilà, le petit enfant d'autrefois.
Que le ciel te confonde ! Vas-tu te taire ?
Te fâche pas. C'est toi qui les as blâmés, non lui ?
En quoi suis-je fautif, bon maître ?
En ne répondant pas à sa question sur l'enfant.
Il ne sait pas ce qu'il dit.
Toi, révèle ce que tu caches, sinon les coups seront de faire parler.
Maître, je t'en conjure, ne frappe pas un vieillard. Que veux-tu savoir ?
Oui ou non, cet enfant lui as-tu donné ?
Je le lui ai donné. J'aurais dû mourir ce jour-là.
C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui si tu persistes à te taire !
Plus sûrement encore si je parle.
C'était déjà dit que je le lui avais donné !
Redoule, te l'es-tu ? Était-ce un enfant à toi ? Non, à moi, non. Je l'avais reçu de quelqu'un.
De qui ? De quelqu'un ici ? De quelle maison ?
Maître, maître, je t'en supplie, ne m'en demande pas plus.
Si je répète ma question, tu es un homme mort !
Eh bien, c'était un enfant du palais de Laïos.
Du palais de Laïos. Un fils d'esclave ou le fils du roi ?
Oh Dieu, c'est la chose horrible à dire.
Horrible à entendre, et je dois l'entendre !
On disait que c'était le fils de Laïos. Mais ta femme t'apprendrait mieux que moi comment les choses se sont passées.
C'est donc elle qui te l'a donné ?
Oui.
Pourquoi ?
Pour que je le tue.
Bonjour Arianna Sforzini.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Merci.
Je l'ai dit, vous préparez une thèse de doctorat sur le rôle du théâtre dans l'œuvre de Michel Foucault à l'Université Paris-Créteil. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé Michel Foucault, une pensée du corps, paru au PUF. Vous avez co-dirigé un autre ouvrage avec Daniele Lorenzini et Ariane Revel, intitulé Michel Foucault, éthique et vérité, publié aux éditions Vrin. C'est donc avec vous que nous terminons cette semaine consacrée à Foucault, avec la question du théâtre. Celui-ci dit, j'en ai lu un extrait, qu'il cherche à faire ce qui l'intéresse, c'est le théâtre de la vérité. Comment comprendre cette expression autrement que par la mise en scène de la recherche de la vérité au sein des personnages du théâtre, comme c'est le cas dans l'extrait d'Oedipe Roy de Sophocle que l'on vient d'entendre ?
On peut commencer par rappeler que Foucault donne au moins 6 analyses de cette tragédie et du proie de Sophocle tout au long de, de ses recherches. Donc, il y a 3 analyses qu'il donne dans des cours et des séminaires au début des années 70 et 3 analyses qu'il donne plutôt dans ses cours au début des années 80. Donc, cette tragédie, c'est vraiment une sorte de texte blason, de texte fétiche, pour utiliser les expressions qu'il utilise lui-même pour les tests de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?». Donc, c'est un texte évidemment très important pour Foucault. Et comme j'ai dit, ces 6 analyses qui peuvent être divisées en deux groupes se situent dans deux moments clés de sa réflexion. Au début des années 70, c'est-à-dire quand il élabore, il met au point sa méthode généalogique, et au début des années 80, lorsque se situe la, ainsi dite, déplacement éthique de Foucault, lorsqu'il commence à réfléchir au rapport entre parole de vérité, gouvernement, pouvoir et subjectivité. Donc c'est un texte évidemment très très important. Je veux rappeler encore que ce mythe d'Œdipe avait été repris de manière très différente par plusieurs intellectuels entre les années 50 et 60. Par exemple, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Lévi-Strauss, évidemment en reprenant la célèbre interprétation de Freud. L'analyse foucauldienne est très différente parce qu'elle est politique, c'est-à-dire elle n'analyse pas l'Œdipe sous l'angle du désir, mais sous l'angle précisément de la vérité. C'est-à-dire, dans une conférence que Foucault fait à Rio de Janeiro en 1973, « La vérité et les formes juridiques », il affirme « S'il y a un complexe d'Œdipe dans notre société, ça ne relève pas d'un niveau individuel, mais d'un niveau collectif. Ça ne parle pas de notre désir, précisément, mais ça parle de l'histoire de notre vérité. »
En d'autres termes, quelle est la vérité qui est mise en scène au sein de la pièce? Puisque la vérité n'est pas simplement celle du destin d'Œdipe, qui, dans l'extrait qu'on a entendu, comprend qu'il était cet enfant qu'on avait confié à un berger, donc qu'il est le fils de Jocaste. Mais il y a une autre vérité, est-elle d'ordre politique?
Elle est d'ordre juridique, disons, juridique. Parce que la pièce s'ouvre sur une question qui est strictement juridique. C'est comme un polar, la tragédie de Sophocle. C'est-à-dire, il faut découvrir qui est le meurtrier inconnu, qui a tué les rois Laios. Et c'est seulement, ça c'est l'oracle d'Apollon qui le dit, c'est seulement en découvrant qui, et en punissant qui a été l'auteur de ces meurtres, que la cité pourra être sauvée. Et donc le roi Œdipe se charge lui-même de cette recherche. C'est très important. La recherche de la vérité va se faire par Œdipe lui-même en première personne. C'est lui qui veut découvrir la vérité. Enfin, c'est lui qui se découvrira l'objet de cette même recherche de vérité qu'il est en train de faire. Parce qu'à la fin de la pièce, il découvrira d'être lui-même le meurtrier de Laios. Et il découvrira aussi quel est le secret de sa propre identité. C'est-à-dire qu'il est le fils de sa femme, de Jocaste, le fils de Laios lui-même. Il y a cette question de découvrir qui a tué les rois. Et bon, comment va se faire cette découverte de la vérité? Foucault dit que la pièce de Sophocle met en scène une découverte de la vérité par symbolique. C'est-à-dire, la vérité va se dire tout au long de la pièce, 3 fois et 3 fois par 2 moitiés différentes qui s'emboîtent. Et ces 3 moitiés différentes correspondent à 3 savoirs différents, c'est-à-dire les savoirs divins des dieux, parce que la vérité est dite dans un premier temps par l'oracle d'Apollon, et le divin Tirésias, qui est appelé par Œdipe lui-même pour dire ce qu'il sait. En tant que prophète, il devrait savoir ce qui s'est passé. Mais cette première affirmation de vérité n'est pas suffisante. Parce que Tirésias, en fait, dit, Œdipe, toi, c'est toi qui as tué le roi.
Oui, Œdipe a besoin d'un témoignage supplémentaire pour entériner la vérité.
Exactement, il dit, et lui, c'est les corps aussi qui dit, la vérité des oracles et des prophètes n'est plus suffisante, ne suffit pas pour attester effectivement ce qui s'est passé. Donc il y a une deuxième moitié des vérités qui est celle royale. C'est-à-dire qu'il y a un discours entre Œdipe et sa femme, sa mère Jocaste, où effectivement la vérité à nouveau se dessine, se révèle. parce que Jocaste dit à Édipe, t'inquiète pas, c'est pas toi qui as tué le roi Laïos, parce que le roi Laïos a été tué par des brigands au carrefour, dans un carrefour, donc c'est pas possible, c'est pas toi. Et Édipe, en ce moment, se souvient d'avoir effectivement tué quelqu'un dans un carrefour, dans une sorte de loot qui avait eu lieu comme ça. Et donc, il a un doute sur ça. Il se doute de pouvoir être les meurtriers de Laïos. Mais encore une fois, cette vérité n'est pas suffisante. La vérité ne peut pas être établie d'une façon tout à fait satisfaisante. On a besoin d'un témoignage. Donc de la parole de quelqu'un qui a effectivement vu ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que Oedipe fait appeler ses bergers qui avaient été présents à l'homicide, à l'assassin du roi Laïos. Et il se trouve que ce berger avait été aussi celui auquel Jocaste avait confié cet enfant, l'enfant qu'elle avait eu avec le roi Laïos, pour qu'il le tue, parce qu'il y avait eu une prophétie de Apollon, selon laquelle les fils de Laïos l'auraient tué et auraient épousé sa femme, donc Jocaste. Et c'est donc ce berger qui est convoqué au palais d'Oedipe. Il ne veut pas parler, évidemment, parce qu'il connaît la vérité. Oedipe le force à parler, le menace aussi de le torturer. Et c'est lui qui va dire « Oui, j'ai reçu cet enfant de la part de Jocaste, cet enfant, c'était toi. » Et c'est seulement à ce moment-là que Édipe comprend, vraiment accepte, disons, ce qui s'est passé. Que la vérité s'établit d'une manière claire et évidente.
Toute tragédie grecque est une aliturgie, c'est-à-dire qu'elle est une manifestation rituelle de la vérité. Une aliturgie au sens général du terme, puisque, à travers les mythes, les héros, les acteurs, les masques que portent les acteurs, la tragédie donne à entendre et donne à voir du vrai. En Grèce, la scène, le théâtre, constitue un lieu où se manifeste la vérité, comme la vérité se manifeste au siège d'un oracle ou sur la place publique, là où on discute, ou dans l'enceinte où l'on rend la justice. La tragédie dit vrai. En ce sens général, toute tragédie est une aliturgie. Mais également, en un sens plus précis, dans son économie interne, la tragédie est aussi une aliturgie, dans la mesure où, non seulement elle dit vrai, mais elle représente le dire vrai. Elle est en elle-même une manière de faire apparaître du vrai, mais elle est aussi une manière de représenter la manière dont, dans l'histoire qu'elle raconte ou dans le mythe auquel elle se réfère, la vérité est venue au jour.
Ariane Sforzini, ce qui intéresse Foucault dans la mise en scène de la vérité au sein du théâtre, c'est en tout cas ce qu'il dit dans le texte qu'on vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacopin, tiré du Gouvernement des vivants, c'est un cours au Collège de France du 16 janvier 1980. Ce n'est pas seulement la vérité que le dire vrai, même plus loin, la représentation du dire vrai. Si on reste encore un instant sur la pièce d'Oedipe, puisque Foucault a beaucoup travaillé sur cette pièce en effet, comment est-ce qu'elle nous permet de comprendre l'importance pour Foucault de cette représentation, de cette mise en scène de la vérité?
Oui, alors effectivement, j'y reviens un instant sur les analyses foucauldiennes de la tragédie de Sophocle, parce que qu'est-ce que Foucault peut conclure de tout ce qu'on a vu sur la tragédie d'Oedipe? Que la tragédie d'Oedipe met en scène une lutte entre de différentes formes de dire vrai. C'est le dire vrai des oracles, le dire vrai divin, et un dire vrai purement humain, qui est le dire vrai des bergers, le dire vrai basé sur les témoignages. Et c'est précisément ce dire vrai qui va devenir la forme de notre vérité. Pour Foucault, Oedipe met en scène la naissance de la vérité enquête, de la vérité qui est une recherche des faits objectifs, qui se fonde donc sur ce qu'on a vu directement, et qui est à la base d'une autre forme de vérité, parce que c'est à la base de la naissance d'une vérité scientifique. Il part de la vérité philosophique, mais aussi de la vérité de la géographie, de l'histoire, de tout ce savoir humain qui est à la base de notre conception de la vérité occidentale. Et c'est une forme de vérité aussi qui est complètement détachée de la sphère politique, ou qui se veut complètement détachée de la sphère politique. Parce que dans la pièce de Sophocle, selon Foucault, il y a quelque chose de trop. Il y, y a quelque chose qui doit être sacrifié pour que cette vérité en quête s'affirme, effectivement. Et c'est le savoir d'Édipe lui-même. Pourquoi ? Parce que Édipe représente une forme de savoir-pouvoir qui est intolérable pour notre conception de la vérité. C'est-à-dire, c'est un tyran. Il fait référence au titre de la tragédie en grec, c'est-à-dire Édipe Tyrannos, Édipe roi. La tragédie de Sophocle nous parle d'une forme de pouvoir qui est un pouvoir tyrannique. Un pouvoir qui se fonde sur la possession d'un savoir et d'un savoir qui a été conquis en première personne, parce qu'on l'avoue, Édipe, c'est quelqu'un qui veut savoir lui-même, qui veut être le maître de la recherche, qui veut être celui qui découvre et qui affirme la vérité lui-même. Et bon, cette idée qu'il y a un lien entre pouvoir et vérité, c'est, selon Foucault, pour nous, inconcevable.
Est-ce que ça veut dire que la conception de la vérité chez Foucault, ce qui intéresse Foucault dans cette quête de vérité, parce que le terme est quand même surprenant de sa part, hein, lui en généalogiste prudent et minutieux, on se demande de quelle vérité il s'agit, c'est pas la vérité au sens métaphysique. Est-ce que ça veut dire donc que la vérité que recherche Foucault en travaillant sur le théâtre, ou en illustrant sa pensée par le théâtre, est en dernier lieu la vérité des rapports de pouvoir qui constituent notre société et chaque individu?
Oui, on peut dire comme ça. C'est vrai qu'il est surprenant de voir un Foucault comme un philosophe de la vérité. Mais en fait, la vérité a été au centre de toutes ses recherches. Mais il s'agit de comprendre de quelle manière Foucault a traité la vérité.
Et de quelle vérité il parlait. Oui.
Exactement. Et cette idée du théâtre est très importante pour cela, parce qu'il le dit très clairement dans l'entretien avec Watanabe que vous avez cité au début de l'émission. Il dit... Je m'intéresse à la scène sur laquelle on a construit la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais ce n'est pas la distinction entre le vrai et le faux qui m'intéresse. C'est la scène qui a constitué la distinction. Donc, il ne s'intéresse pas à la vérité en tant vérité épistémique, une vérité qui connaît les essences des choses, mais au jeu des vérités, pour utiliser une autre expression de Foucault, qui forme notre conception de la vérité elle-même.
La parésia peut s'organiser, se développer et se stabiliser dans ce qu'on pourrait appeler un jeu parésiastique. Car si le parésiaste est celui qui prend le risque de mettre en question sa relation à l'autre, et même sa propre existence en disant la vérité, toute la vérité envers et contre tout, d'un autre côté, celui à qui cette vérité est dite, qu'il s'agisse du peuple assemblé et qui délibère sur les meilleures décisions à prendre pour la suite, qu'il s'agisse du prince, du tyran ou du roi auquel il faut donner des conseils, qu'il s'agisse de l'ami que l'on guide, celui-là, s'il veut jouer le rôle que lui propose le parésiaste en lui disant la vérité, doit l'accepter, aussi blessante qu'elle soit, pour les opinions reçues dans l'assemblée, pour les passions ou les intérêts du prince, pour l'ignorance ou l'aveuglement de l'individu. Cette espèce de pacte entre celui qui prend le risque de dire la vérité et celui qui accepte de l'entendre est au cœur de ce que l'on pourrait appeler le jeu parésiastique.
Que vas-tu dire pour tirer un troisième lot qui soit plus riche que celui de tes sœurs? Parle, veux-tu?
Je ne dirai rien, monseigneur.
Rien?
Rien.
De rien ne te viendra rien. Parle encore.
Pour mon malheur, je ne puis élever mon cœur jusqu'à mes lèvres. J'aime votre grandeur comme c'est mon devoir, ni plus ni moins.
Comment, Cordélia, corrige un peu tes paroles, sinon tu gâtes tes chances.
Mon cher seigneur, vous m'avez engendré, vous m'avez nourri et choyé. Quant à moi, je vous rends comme il faut ces choses dues, en vous obéissant, vous aimant et vous honorant entre tous. Pourquoi mes sœurs ont-elles des époux, elles qui assurent n'aimer que vous? Grâce à Dieu, si je me marie, le prince dont la main doit avoir ma foi prendra aussi la moitié de mon cœur, la moitié de mes soins et de mes devoirs. Sûrement, je ne me marierai jamais comme ont fait mes sœurs, pour n'aimer que mon père.
Est-ce là le fond de ton cœur?
Oui, monseigneur.
Si jeune et si peu aimante.
Si jeune, monseigneur, et si véridique.
Que ta vérité te serve de dot, puisque par les rayons du divin soleil, par les mystères d'Hécate et par la nuit, et par tous les pouvoirs des sphères célestes dont nous tenons l'existence et la mort. Je désavoue tous mes devoirs de père, les liens du sang et de la parenté, et te tiens pour toujours et dès à présent étrangère à mon cœur.
Difficile de parler de théâtre et de vérité, Ariana Sforzini, chez Foucault, sans évoquer ce terme de parisien hein, qu'il définit dans un cours au Collège de France en 84, dans un cours justement intitulé « Le courage de la vérité ». Il écrit à propos du roi Lear que celui-ci commence par une histoire de parésia, une épreuve de franchise, qui dira la vérité au roi. Et le roi Lear est précisément celui qui n'a pas été capable de reconnaître la vérité là où elle était. En quoi est-ce que le concept de parésia s'incarne et même s'éclaire au sein même du théâtre et plus précisément au sein du roi Lear?
Alors, qu'est-ce que c'est que la parésia pour Foucault? Alors, Foucault utilise un terme pour parler de la parésia qui est très intéressant en parlant du théâtre parce qu'il dit que la parésia relève d'une dramatique des discours. C'est quoi une dramatique des discours? C'est un discours qui change les modes d'être de celui qui l'énonce. Donc par rapport, par exemple, à un énoncé performatif. Un énoncé performatif, c'est un énoncé qui a des effets sur la réalité, mais des effets qui sont très codés, très ritualisés. Par exemple, c'est le président d'une assemblée qui dit « la séance est ouverte ». Dans les cas de la parésia, c'est une forme de parole qui a sûrement des effets sur la réalité, mais qui d'abord change la manière d'être, la subjectivité même de celui qui l'énonce, et en plus a des effets qui sont imprévisibles sur la réalité, ne sont pas codifiés à l'avance. C'est l'ouverture d'un risque, d'une fracture dans un jeu qui est un jeu politique pour Foucault, parce que la parésia est surtout conçu par Foucault comme une parole que quelqu'un de plus faible adresse à un plus puissant.
Il y a l'idée d'un pacte hein, qui est très important.
Un pacte si celui qui est plus puissant accepte le jeu de la parésia, c'est-à-dire accepte que l'un de ses sujets lui dise la vérité. Donc ça, c'est les bons jeux de la parésia politique selon Foucault, parce que alors, oui, que celui qui est au pouvoir accepte que quelqu'un d'autre lui dise la vérité. Mais dans les cas des rois Lear, par exemple, ça se passe pas. Ça se passe pas comme ça, parce que les rois n'acceptent pas cet acte de parésia qu'est la non-parole en réalité de Cordélia, de sa fille, parce que c'est une parésia très bizarre.
Mais c'est ça qui est intéressant
dans ce
pièce, c'est peut-être qu'elle dit vrai, mais surtout, elle se retient de parler. Le roi demande à ses filles des preuves d'amour. C'est la troisième des filles à parler. Elle dit « Mais je n'ai pas besoin de te donner de preuves d'amour puisque je t'aime. » Et c'est là où il se vexe énormément et il lui reproche de presque de mentir alors qu'elle est la plus sincère en s'abstenant de parler.
Parce qu'en disant que le vrai amour ne peut pas s'exprimer dans des mots. Et ça, c'est un concept très intéressant, même pour comprendre la parésia chez Foucault. Parce que c'est vrai que la parésia est une forme de parole, de dire vrai. Mais il y a quelque chose de plus. Cet acte de vérité peut même, à la limite, se passer de la parole elle-même. Peut aussi devenir seulement un geste. Comme c'est le cas, par exemple, de la parésia cynique, qui est une parésia qui se passe souvent des mots, qui se fait à travers le corps, la corporité elle-même. Et dans le cas des Cordélia aussi, c'est une parésia dans le sens où son affirmation de vérité se refuse de mettre en parole un affect qui deviendrait verbalement seulement une sorte de flatterie, d'adulation, je veux dire. Quelque chose qui serait une trahison par rapport à la sincérité des sentiments qu'elle éprouve. Et c'est pas seulement, je veux dire, Cordélia est aussi dans une position de faiblesse par rapport à son père qui est aussi le roi. Donc il y a un côté politique même dans cette scène qui peut sembler simplement un dialogue entre un père et une fille. Mais c'est aussi une scène tout à fait politique. Parce qu'il y a ces rois surpuissants, ces rois qui est dominé par la colère, qui est l'un des traits caractéristiques des tyrans. On parlait tout à l'heure de tyrannie par rapport à Œdipe. Donc, roi Lear se comporte en tyran et sa fille a le courage de lui résister, de ne pas accepter cette demande d'un acte de soumission, parce qu'il demande à ses filles de lui dire combien elle l'aime et c'est comme une forme de soumission par rapport à son pouvoir. Cordélia le refuse. Et donc, elle peut être considérée. Bon, c'est vrai que Foucault parle de la tragédie d'Oralire comme tragédie de la vérité. Il n'emploie pas le terme parésia par rapport à Cordélia, mais je pense qu'on peut analyser cette scène initiale d'Oralire comme une scène parisiastique.
Mais là encore, quelle conception de la vérité Foucault a en tête ici lorsqu'il prend l'exemple d'Oralire, puisqu'on en revient quand même à la vérité d'un certain rapport de force et de pouvoir. Finalement, ce que Cordélia lui dit, c'est qu'il a beau être son père, elle ne lui doit pas la soumission. Donc si on essaye encore de définir la vérité dont il s'agit, est-ce que ce n'est pas à nouveau en termes de rapport de force et de pouvoir
oui,
que celle-ci
sûr.
Va se définir?
Bien sûr, c'est toujours une vérité chez Foucault qui ne se définit pas par rapport à son contenu, c'est-à-dire à la vérité qu'elle dit sur la réalité. Ce n'est pas une vérité épistémique, ce n'est pas une vérité qui dévoile la vérité du réel, mais c'est une vérité qui joue comme une force, et une force dans une scène qui est une scène politique pour Foucault.
C'est ça, parce que le concept de parésia a été beaucoup utilisé et récupéré dans différents domaines. On l'entend beaucoup aujourd'hui,
oui.
Enfin, je veux dire, on le lit même dans les articles de journaux, beaucoup d'intellectuels s'y réfèrent sans vraiment lui donner un contenu précis. Est-ce que chez Foucault, il a un autre sens que celui de dire ce qu'il en est dans un contexte donné? Est-ce que c'est un concept aussi vague que cela qui justifie les différentes utilisations qu'on en fait, ou est-ce qu'il est plus précis?
Ça peut être défini justement par rapport au risque que les locuteurs assument à partir du moment où il affirme.
Il y a la notion de risque et de courage.
Il y a cette notion de courage qui est très importante. Parce que la parésia, c'est précisément ça. C'est une vérité qui dérange. C'est une vérité qui fait rupture. On a l'idée que la vérité est ce qui doit mettre tous d'accord. Et Foucault nous dit non, la vérité qui est la plus puissante dans un jeu politique, c'est la vérité qui fait rupture. Qui marque une différence. Et c'est donc précisément le risque que les locuteurs acceptent quand ils parlent qui fait la différence, je pense, pour définir ce qui est parésia et ce qui ne l'est pas.
Ce lieu que Proust, doucement, anxieusement, vient occuper de nouveau à chacun de ses réveils, à ce lieu-là, dès que j'ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois par lui cloué sur place, puisqu'après tout, je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le remuer, le bouger, le changer de place. Seulement voilà, je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est pour m'en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais. Je peux bien me laisser fondre au soleil sur la plage. Il sera toujours là où je suis. Il est ici, irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si, par bonheur, je vivais avec lui dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau.
Sur les planches et vous venez me voir apporter un ailleurs, un ailleurs, apporter un ailleurs où vous voulez me suivre, mais c'est moi qui vous suis. Je monte sur les planches.
Du corps vraiment pas beau de Michel Foucault au l'expérience du théâtre, mais Jeanne Moreau qui monte sur les planches. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à Michel Foucault. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir d'accueillir la philosophe Arianna Sforzini, auteure d'entre autres d'un ouvrage intitulé Michel Foucault, une pensée du corps, disponible au PUF.
Je monte sur les planches et vous venez me voir apporter un ailleurs, un ailleurs. Apporter un ailleurs où vous voulez me suivre, mais c'est moi qui vous suis. Je monte sur les planches et vous venez me voir apporter un ailleurs, apporter un ailleurs où vous voulez me suivre. moi qui vous suis, qui vous suis, l'ailleurs qui vous rattrape.
Arena Sfordini, vous avez défini la parésia comme étant cette prise de risque par un individu de dire la vérité, de dire ce qui est ou ce qu'il se passe, avec la notion de courage et donc de risque qu'elle implique. Cette prise de risque, on l'entend, alors certes, dans beaucoup de pièces de théâtre, hein, on en a évoqué quelques-unes, on peut en évoquer d'autres, mais est-ce qu'elle n'est pas présente au sein même de cette... quand Foucault parle lui-même du corps utopique, c'était une pièce, un texte qu'il a écrit pour France Culture le 7 décembre 1966, où il prend le risque quand même de parler de lui-même, de son corps qui à la fois lui échappe et en même temps lui assigne un lieu, de ce corps qu'il décrit comme étant bizarre, il se décrit myope, il se regarde dans la glace, il se trouve vraiment pas beau, dit-il. Il y a ici une forme de courage de la vérité à soi qui permet de relier sans doute la pensée du corps et la pensée du théâtre dans une même réflexion, un enjeu qui finalement est celui d'une vérité qui est quasi politique puisque le soi est toujours pris dans un rapport de force et dans un rapport de pouvoir.
Oui, je vais démêler les choses, c'est-à-dire que c'est cette très belle conférence, Les corps utopiques, que Foucault donne en 66, commence précisément en disant les corps paraissent être les contraires d'une utopie. Les contraires, d'une utopie, c'est ce qui nous enferme dans un lieu, c'est ce qui nous empêche d'être autre chose. Mais en fait, il y a un moment dans la conférence où les choses se deviennent complètement différentes, les tons changent, et Foucault nous montre en effet comme le corps peut aussi devenir lui-même acteur d'utopie. Au contraire, il est, si vous voulez, les lieux mêmes d'où naissent toutes les utopies. Il part des expériences, par exemple, des tatouages, des maquillages, de la danse, des masques dans les différentes cultures. Ce sont des manières à travers lesquelles les corps essayent de sortir de lui-même, de se transformer, de se faire autre. Et c'est précisément cette puissance utopique du corps qui m'a fascinée et qui m'a intéressée lorsque j'écrivais mon bouquin. Voir s'il y a dans les corps une puissance de transformation qui devient aussi une puissance de transformation politique. Et je vais revenir encore une fois à l'exemple de cynique. Le cynique est quelqu'un qui, selon Foucault, fait de son corps les théâtres même de la vérité. Il incorpore tous les préceptes éthiques, les préceptes de vérité traditionnels de sa culture, de la culture de la Grèce ancienne. Et la question est, la vérité devient quoi quand elle devient le corps lui-même? Et c'est intéressant parce que la vérité incorporée devient immédiatement quelque chose d'impossible à reconnaître et presque intolérable. Je prends un exemple. Il y avait cette idée dans la culture grecque que la vérité est une sorte de transparence. Une existence vraie, c'est une existence qui n'a pas peur de se montrer en public parce qu'elle est pure, elle est vraie, elle est juste. Bon, les cyniques réalisent jusqu'au bout, disons de manière radicale, cette idée et fait vie au grand public, vie dans la roue, fait tout. Face à un public, il mange dans la rue, il fait l'amour dans la rue, il se masturbe dans la place publique, etc. Donc, il montre effectivement comme ces préceptes de vérité, une fois incorporés, deviennent quelque chose de complètement intolérable par rapport à la pensée commune. Donc, il y a cette idée que la théâtralisation de la vérité, la mise en scène de la vérité dans son propre corps, est immédiatement une forme de contestation, parce qu'elle déplace la vérité comme on la considère traditionnellement, communément. Et c'est cette forme de transfiguration, cette puissance de transfiguration que le corps, et précisément la théâtralisation du corps, a, qui m'intéresse beaucoup et que je trouve c'est très intéressant, même pour comprendre, pour réfléchir à la posture philosophique de Foucault lui-même.
Mais oui, mais d'ailleurs, c'est à partir de cette réflexion sur la théâtralisation du corps que Foucault en est venu à s'intéresser au théâtre, sans doute, parce que finalement, on ne l'a pas dit, mais Foucault a très peu écrit sur le théâtre directement.
Oui, c'est vrai.
Ce qui l'intéresse, c'est l'idée de mise en scène et de transfiguration. Et oui. Ça, c'est au sein même du corps, voire de son propre corps, qu'il trouve cette expérience.
Oui, précisément, c'est comme ça. Oui. Et même s'il a, bien sûr, il n'a pas vécu un cynique, ça c'est clair, mais il a essayé de rendre la pensée, la réflexion sur la vérité, une forme d'existence, jusque dans son propre corps.
Alors il y a une autre vérité que nous dévoile le théâtre et même le rapport au corps, c'est la vérité, celle d'un partage, plutôt d'une scission que Foucault a beaucoup dénoncée, sur laquelle il a beaucoup travaillé, c'est celle entre la raison et la folie. Écoutez.
Je crois justement que l'expérience tragique de la folie est tout à fait caractéristique du théâtre du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Enfin, la folie chez Shakespeare est quelque chose de tout à fait capital. L'intéressant, c'est justement qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, en somme avec Andromaque, on a la dernière tragédie classique qui parle encore de la folie. Et à partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées dans les choses, sont séparées dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible.
Mais que vois-je ? À mes yeux, Hermione l'embrasse. Elle vient l'arracher au cou qui le menace. Dieu, quels affreux regards elle jette sur moi. Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez! À vos fureurs, en reste s'abandonne! Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione. L'ingrate mieux que vous saura me déchirer. Et je lui porte enfin mon cœur a dévoré.
Dans l'histoire de la folie, Michel Foucault écrit ceci à propos d'Andromaque. Le rideau qui tombe sur la dernière scène d'Andromaque, que nous venons d'entendre, Ariana Sfandini, tombe aussi sur la dernière des grandes incarnations tragiques de la folie. Mais dans cette présence au seuil de sa propre disparition, dans cette folie en train de s'esquiver pour toujours, s'énonce ce qu'elle est et sera pour tout l'âge classique. N'est-ce pas justement dans l'instant de sa disparition qu'elle peut le mieux proférer sa vérité d'absence, sa vérité qui est celle du jour aux limites de la nuit? Il fallait que ce fût la dernière scène de la première grande tragédie classique, ou si l'on veut, la première fois où s'énonce la vérité classique de la folie dans un mouvement tragique qui est le dernier du théâtre préclassique. Vérité de toute façon instantanée, puisque son apparition ne peut être que sa disparition. L'éclair ne se voit que dans la nuit déjà avancée. Une dernière vérité ici, Ariana Sforzini, qui est la vérité de la folie, qui ne peut être que mise en scène par définition, au point où on en vient se demander si la folie n'est pas chez Foucault une autre manière pour la raison de se mettre en scène, tout simplement. Ce n'est pas le contraire de la raison, c'est une autre mise en scène de la raison.
Oui, sûrement, au moins la conception de la folie que l'âge classique a formulée, qui se formule précisément par rapport à la raison. Parce que, bon, en revenant à l'histoire de la folie à l'âge classique, la présence du théâtre dans ses livres est très intéressante. Par exemple, Foucault voit dans Shakespeare, carrément, dans Le Roi Lear, par exemple, l'une des dernières expressions d'une conception tragique de la folie, d'une conception cosmique de la folie comme ouverture sur la vérité du monde qui est une vérité du chaos et du rien finalement. Donc une vérité de la folie qui était en train de disparaître précisément au XVIIe siècle. Parce qu'au XVIIe siècle, cette distinction que la raison fait entre ce qui lui appartient et ce qui reste en dehors d'elle, donc la déraison, la folie, empêche à la folie de retrouver sa voix. La folie perd sa voix. Et selon Foucault, donc, la disparition de la folie sur scène et les grands internements de fous à l'âge classique sont les deux volets d'une même opération qui est celle de réduire la folie à la pure absence des raisons, la la pour nuit, pour erreur, pour délire. Donc une folie qui ne dit plus rien et qui ne peut plus avoir de voix. Donc, et comme elle ne peut plus avoir de voix, elle ne peut plus se représenter sur scène. Et Andromaque des Racines, c'est pour Foucault précisément ces derniers tributs que le théâtre fait à une folie qui ne pourra plus prendre la parole sur scène. Au reste qui sombre dans les délires, comme on vient d'entendre. Dans le théâtre de la Renaissance, un chœur, les fous étaient... c'est lui qui disait la vérité sur scène. Il y a cette idée du fou, même dans les tragédies de Shakespeare, par exemple.
La sagesse du fou. Ouais.
Exactement, le fou, et c'est lui qui révèle la vérité, qui dit la vérité au roi, par exemple, même dans Roi Lear. C'est le fou qui, à un certain moment, dit au roi, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Lui dit la vérité. Ces rôles d'inconscient parésiaste, du fou comme inconscient parésiaste, n'est plus possible à l'âge classique. Parce que c'est cette idée du théâtre représentation chasse la folie de la scène du théâtre. Et Foucault dit même la règle, les règles du théâtre classique, par exemple la règle de la journée, le fait que la tragédie doit représenter une journée et c'est tout, est un reflet de cette idée que la raison est le royaume de la lumière, la folie est la pure nuit, et la pure nuit ne peut plus avoir de voix. Donc elle ne peut plus être représentée. Elle reste en dehors de la représentation. Et bien sûr, réfléchir sur cette question de la représentation et du rôle que ces concepts ont joué par rapport à la raison et donc à la philosophie classique et moderne est très intéressant, très important, et peut-être les théâtres peuvent nous aider à conduire cette réflexion.
En quel sens vous pensez que c'est le cas aujourd'hui ?
C'est intéressant parce que on a cette idée que la philosophie doit représenter la réalité, doit dire l'essence des choses. C'est la philosophie a toujours rejeté, disons, en dehors de soi, le théâtre. Depuis Platon, le théâtre ne peut pas appartenir au royaume de la philosophie et donc de la vérité, parce que le théâtre est le lieu de l'apparence. Donc il y a la philosophie qui dit la vérité des choses et tout ce qui reste en dehors, l'apparence, le théâtre, c'est les royaumes de l'illusion. Mais ça se fait à travers un paradigme qui joue sur la notion des représentations. Donc, la connaissance, c'est représenter la vérité des choses. Et ce qui sort de ces paradigmes ne peut pas appartenir à la philosophie elle-même. Donc, le théâtre ne dit pas la vérité. Et Foucault, sûrement, essaye de déconstruire, si je peux utiliser un mot de Derrida, cette idée de la représentation. Et cette idée que la philosophie doit se représenter la réalité.
Mais ça, d'autres l'ont fait avant lui. Nietzsche, notamment, est
bien
un
sûr,
grand
Nietzsche
penseur
est
de la vérité
grand
de
modèle,
l'apparence.
Nietzsche est le grand modèle de Foucault, ça c'est clair. Et Nietzsche est le grand modèle de Foucault aussi pour toute cette idée du théâtre, et par exemple aussi pour l'idée que j'utilise ici un concept d'Alessandro Fontana, qui a été un collaborateur de Foucault et qui a participé à l'édition des cours, et qui dit que finalement la généalogie foucaldienne, ce n'est qu'une histoire par figure, comme l'avait fait déjà Nietzsche avant lui, par exemple Apollon et Dionysos dans La naissance de la tragédie. Et c'est pour cela qu'on peut parler d'une philosophie théâtre par rapport à Foucault, parce que il ne fait que faire une histoire, donc pas une histoire des idées, pas une histoire des structures de la pensée, mais une histoire de figures de la pensée.
Merci beaucoup, Ariane Asfandini, d'être venue me parler de Foucault aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Michel Foucault, Une pensée du corps, disponible au PUF. Un ouvrage co-dirigé avec Daniele Lorenzini et Ariane Revel. Michel Foucault, Éthique et vérité, disponible chez Vrin. Et puis je vous propose qu'on se quitte avec la figure d'une folle qui dit la vérité, mais que personne n'écoute. C'est Cassandre, un extrait des Troyens de Berlioz.
Thank you. ils entrent sans les faire.
Laissons Cassandre à ses cris et à sa non-folie. Il est 10h47, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Vous continuez votre semaine sur l'écriture.
Exactement, vous venez de parler de parésia et de théâtre. Il est aussi question du vrai, du faux et de littérature dans l'essai sur les fictions de Jean-Pierre Clairaut, paru aux éditions Hermann. Une fiction, si l'on suit le dictionnaire, est une création, une invention de choses imaginaires, irréelles. Et tout de suite, on pense par exemple à des œuvres littéraires ou cinématographiques. Mais si on s'en tient à la définition du dictionnaire et si l'on regarde l'histoire des sciences humaines, la fiction dépasse largement ce champ esthétique. C'est par exemple la fiction du contrat social qui nous permet de créer une communauté politique. C'est aussi le cas où des parents sont tenus pour responsables du délit de leur enfant. Il y a plein d'autres exemples juridique, politique, et chacun nous montre que dans la fiction, on fait comme si. Avec la fiction, tout tient donc dans ce comme si. Mais que mettre dans ce comme si, et surtout, que se passe-t-il ensuite? Comme si quoi? C'est toute la question du philosophe Jean-Pierre Clairaut avec cet essai sur les fictions paru aux éditions Hermann. Alors autant le signaler, c'est un ouvrage passionnant mais difficile. Ce n'est pas une promenade légère, mais un travail de recherche extrêmement fouillé et fourni qui part de la théorie des fictions chez Bentham et Diderot pour aller jusqu'au rapport de la fiction avec la religion, en passant par ses rapports avec la métaphysique et les mathématiques. Revenons alors à la question de départ. Que mettre dans ce comme-ci de la fiction? Si on ne peut pas réduire la fiction à la littérature pose bien à l'inverse le problème de la fiction. Quand on lit un livre, on fait comme si c'était vrai. Au cœur de la fiction, il y a donc ce problème du vrai et du faux. Mais finalement, là est tout l'intérêt de la fiction. On la sait fausse, mais on la tient pour vraie. Et avec la fiction, on peut donc franchir les limites de la réalité pour enfin penser l'impensable et résoudre ce qui semblait impossible.
Merci beaucoup Géraldine. Rappelez-nous le titre de l'ouvrage.
C'est Essai sur les fictions de Jean-Pierre Clairaut et c'est paru aux éditions Hermann.
Merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve, on vous retrouve demain, Géraldine. Car demain, c'est vous qui serez aux commandes pour les chemins du vendredi. Vous continuerez la semaine Foucault avec François Caillat, qui a réalisé un documentaire intitulé Foucault contre lui-même. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins de la connaissance où Marianne Chassor met en ligne quotidiennement les indications musicales, bibliographiques et cinématographiques concernant l'émission du jour. Et vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Vous écoutez France Culture, il est 10h50, c'est l'heure de retrouver sans plus attendre Martin Kénéen pour Grand Amphi.